La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi Loïc Guillot, rédacteur en chef du JDD Magazine, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1 et François Delabarre, grand reporter à Paris Match. La guerre en Ukraine, les troupes russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine avec une supériorité en nombre et en armement. La localité de Volgodour est en ce moment propice au combat après la prise de Soledar. Les habitants de Kiev se sont fait une fois de plus copieusement bombardés il y a 24 heures. On a débloqué les chars, des Abrams américains, des Léopards polonais et allemands, des Challenger britanniques et les Leclerc. Pas de go pour le moment de Paris. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, s'est retrouvé interrogé jeudi par nos confrères de France Info sur cette question des chars et de la guerre en Ukraine en général. Et vous allez l'entendre, il fait le distinguo entre co-belligérant et gardien de l'état de droit.
Vous livrez des armes, vous faites de la formation et ce n'est pas une question de co-belligérance. On voit bien que les Russes veulent absolument entraîner dans cette logique pour justifier de leurs propres actes par ailleurs. Il faut prendre ses responsabilités quand on est dans une situation comme celle-là. On a besoin quand même de faire respecter l'état de droit. Et malheureusement, en l'occurrence, l'état de droit ne peut être respecté qu'en fournissant aux Ukrainiens les moyens de se défendre.
Ça s'appelle un narratif, Loïc Guillot.
Oui, il ne peut pas dire grand-chose d'autre de toute façon. C'est vrai qu'ils insistent beaucoup en ce moment, tous les alliés, sur le fait que les armes fournies restent utilisées à l'intérieur de l'Ukraine et pas à l'extérieur. Il dit bien pour défendre. Donc le jeu sémantique est là-dessus, sur la défense et pas l'attaque. Et c'est là-dessus, je pense que dans les semaines qui viennent, les choses peuvent évoluer. Est-ce que les armes qu'on fournit vont être utilisées à l'extérieur de l'Ukraine pour aller tenter de reconquérir les territoires et surtout de pousser l'armée russe en dehors des frontières ukrainiennes?
Louis de Raguenel.
Alors déjà, la définition de la co-belligérance a beaucoup évolué depuis le début de ce conflit ukrainien. Au début, souvenez-vous, était hors de question pour la France d'envoyer même des munitions ou des armes. C'était effectivement la frontière à ne pas dépasser. Et puis on voit au fil du temps, en fonction des besoins de l'armée ukrainienne, et puis surtout en fonction de ce que font les États-Unis, parce qu'en fait, ce sont eux clairement qui donnent un peu le ton. Ils essayent d'entraîner l'Occident. En tout cas pour soutenir davantage l'Ukraine. Et donc, évidemment, voilà, la frontière avec la co-belligérance a évolué et elle a tellement évolué que cette semaine, dans le Figaro, le ministre de la Défense ukrainien demande, après les promesses de livraison de chars américains, allemands et d'autres pays européens, demande à la France des rafales et des pilotes. Et là, pour le coup, la France, et ça on peut le dire, l'affirmer en tout cas pour le moment, mais tant que nous, on ne veut pas être co-belligérants officiellement,
on ne peut pas
envoyer des avions de chasse, tout simplement parce que les avions de chasse seront pilotés par des pilotes français, et dès lors que les pilotes français vont aller frapper des emprises russes, ou alors attaquer, ou alors défendre des positions ukrainiennes, eh bien, mécaniquement, on rentre dans le conflit. Ensuite, il y a un deuxième...
Parce que les pilotes russes sont incapables de piloter un Rafale, pour faire simple.
Les pilotes ukrainiens, pardon.
Ukrainiens, pardon.
Alors, pour l'instant, oui, non, ils sont entraînés, ils pilotent essentiellement des MiG et des avions de fabrication
russe. Oui, donc ça vaut pour les Russes aussi.
Qui ont été livrés, d'ailleurs, il y a eu des renforts avec notamment la Pologne. Mais donc, effectivement, quand bien même on fournirait des avions de chasse français, il faudrait les former. Mais après se pose, s'agissant de la France, une autre question beaucoup plus franco-française, qui est, est-ce que nous, on a réellement les capacités à fournir des avions de chasse comme ça? On n'en a pas tant que ça. L'armée de l'air et de l'espace, c'est à peu près 250 chasseurs. C'est pas énorme, c'est à peu près le même nombre d'avions de chasse qu'il y avait en France en 1913. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment jamais eu aussi peu de chasseurs.
Mais en plus, ils sont pas tous
en dotation.
Ils ne sont pas tous fonctionnels, je crois savoir.
Alors, ils ne sont pas tous fonctionnels. Et c'est la question se pose un peu différemment, mais en termes de capacité de ressources, un peu de la même manière, là, pour le coup, avec l'histoire des chars Leclerc. Et la raison pour laquelle je suis convaincu que Emmanuel Macron ne livrera pas, en tout cas dans l'immédiat, des chars Leclerc, il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous, on a à peu près un parc de 220-222 chars Leclerc en France. L'entreprise Nexter, qui produit des chars Leclerc, n'en produit plus depuis l'année 2008. Et il faut attendre 2040 pour qu'on ait la première livraison du successeur du char Leclerc. Donc clairement, on a très peu de chars, et en plus des chars en état de fonctionner, on en a pas énormément. Donc l'Elysée, pour l'instant, se cantonne à dire on a déjà fourni des chars à roues, les AMX 10RC, Et nous, on a fait un peu notre, si vous voulez, notre part de l'objectif. Et donc, on a déjà donné, d'ailleurs, c'est grâce à l'action de la France, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron communique, grâce à l'action de la France que d'autres pays alliés ont fourni ensuite donc les chars Léopard. Et puis voilà.
Donc vous faites un distinguo entre les chars à roues et les chars à chenilles, c'est ça?
Absolument. Ouais. En fait, normalement, alors les puristes, les tankistes purs, n'appelle jamais pour les vrais, les puristes, un char à roues, c'est pas un char, c'est un véhicule blindé.
Oui, c'est ce que je pensais.
Et un char, ce qu'on appelle un chenille. Voilà, exactement. Bon, après, on est pas dans un débat de spécialistes.
On n'est pas dans une émission militaire.
Non, mais ce qui est important de bien mesurer aussi, c'est que tout l'enjeu aussi pour l'armée française, c'est de garder des capacités. Oui. On a déjà fourni des canons César, on a déjà fourni un certain nombre de missiles. Les Ukrainiens consomment énormément de munitions. Et donc,
trop.
Il y a aussi cette. Alors, quand vous écoutez des spécialistes, objectivement, je vais vous répondre, quand vous avez des spécialistes de l'armement en France, ils vous expliquent clairement quand on fournit des armes qui coûtent parfois 300, 400 000 euros et qu'elles sont utilisées juste pour détruire un drone qui vaut 1 500 euros, et des experts français sont parfois un peu. Se disent voilà, il faut quand même bien mesurer ce qu'on donne et il faut que les Ukrainiens. Sache
non, mais
ce qu'ils ont entre les mains.
Extrêmement important.
Voilà, et en plus, voilà, donc ils consomment énormément, mais c'est normal, c'est un pays en guerre, et donc ils ne vont pas forcément regarder à l'unité près quel est le prix de chaque arme qu'ils ont entre les mains.
François de la Barre, même si vous revenez tout juste de ce qu'on vient de dire, votre regard là-dessus.
Je pense que c'est la preuve que la France n'est pas la troisième voie que Emmanuel Macron a tenté de promouvoir au début du conflit. Et il a essayé de. Vous rappelez-vous, au début, il parlait avec Poutine. Mmh. C'était le seul qui gardait ce canal de discussion avec Poutine. Et je pense qu'il voulait, il avait l'ambition de faire ce que faisait la France à l'époque de Chirac. Et c'est-à-dire, elle avait sa propre personnalité par rapport au bloc de l'Est et au bloc de l'Ouest. Et là, on voit bien qu'on suit le sillon des Américains et on est des alliés des Américains. Et quelles que soient les décisions qu'on prenne, finalement, on est avec eux, qu'on le veuille ou non, puisqu'on finit par prendre les décisions qu'ils veulent qu'on prenne. Ce qui ne fait pas de nous. Voilà, on a notre propre indépendance, mais elle est quand même assez réduite dans le cadre de ce conflit, en tout cas.
Allez, on va revenir en France avec effectivement la question des retraites. Mardi prochain, grande journée de contestation. Les syndicats espèrent faire aussi bien que la dernière fois. Je vous rappelle le chiffre, 1 120 000 personnes dans les rues, 80 000 à Paris. En attendant, le gouvernement tente toujours de convaincre du bien fondé de cette réforme. Écoutez Olivier Dussopt, le ministre du Travail, encore aujourd'hui sur BFM TV.
Parmi les Françaises et les Français qui s'opposent à la réforme, il y a des gens de bonne foi. D'accord. Et qui ont une opposition à la réforme pour ce qu'elle est, parce qu'ils considèrent pour certains, ça n'est pas notre sentiment, qu'elle n'est pas nécessaire. Nous considérons qu'elle est nécessaire parce que le système est en déficit et que si on ne fait pas cette réforme, il va dans le mur.
Voilà, le système est en déficit, sinon on va dans le mur. 15 jours non-stop, et quand je dis 15 jours, c'est beaucoup plus que le ministre du Travail répète la même chose. Beaucoup ont raillé sur celui qu'on a appelé également le pompier de service. Alors il y en a un qui a de la peine, c'est, figurez-vous, c'est l'acteur Yvan Le Bolloc. Je vous laisse écouter.
Donc je trouve qu'elle tombe mal, je trouve qu'elle est mal amenée, je trouve que Olivier Dussopt, le pauvre qu'il... j'ai de la peine pour lui. Sans déconner, on dirait un vendeur VO chez Citroën qui dit « Cette bagnole-là, elle n'a pas 15 000 km. » Et là, toi, tu vois qu'elle a 150 000. Tu le vois, tu ne vas pas l'acheter. Et lui, le pauvre, il est absolument... Il veut nous la fourguer. Les amortisseurs, ils sont soudés, les cuirs, ils sont fatigués, les plaquettes de frein, c'est un lointain souvenir. Et il te dit « Mais elle est neuve !» Mais faites-moi confiance, elle est neuve. C'est ça le problème, c'est que nous, on voit bien qu'elle n'est pas neuve.
Bon, à part le fait que ce soit un bon acteur, chacun a sa vision des choses et bon, chacun son image. Qu'est-ce que ça vous... Alors, surtout sur Olivier Dussopt, parce que bon, Yvan Le Bolloc et sa façon de voir les choses, c'est vrai que je vous ai passé ce nord parce que c'est assez amusant, mais c'est vrai qu'il est... Vous remarquerez quand même, depuis le début, à répéter tout le temps la même chose, le même narratif, le fait qu'on n'a pas le choix, le fait que cette réforme est bonne. Bon, ça s'est produit également par le passé, mais...
Alors, s'agissant d'Olivier Dussopt, il y a aussi une petite spécificité, c'est qu'il défendait avec une conviction incroyable les arguments exactement contraires à ce qu'il défend aujourd'hui, quand il était encore au Parti Socialiste et qu'il était dans l'opposition. Et du coup, c'est vrai que même au sein du Parti Socialiste, ça fait railler tous ses anciens amis, parce qu'ils expliquent mais c'est pas possible d'avoir des convictions à géométrie variable.
On peut avoir changé d'avis.
Alors, on peut changer d'avis, mais là, c'est vraiment sur des questions de fond, parce qu'en fait, contraire, et d'ailleurs, c'est une des erreurs du gouvernement, c'est de refuser, en tout cas pour le moment, de donner une couleur politique à cette réforme. Et c'est pour ça que c'est pas clair du tout. Il faut assumer, quand on est au gouvernement, de dire, voilà, c'est quand même plutôt une réforme pas libérale, mais qui va dans le sens des
de
tout ce qui a été demandé par la droite. Il suffit de vous regarder simplement les programmes de la dernière présidentielle. Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron proposaient tous une réforme des retraites, alors avec des variables un peu différentes d'un candidat à l'autre. Et donc clairement,
ces mêmes gens de droite ne voteront peut-être pas.
Et absolument. Bah, ça c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, mais enfin c'est pas.
Mais oui, absolument. Et donc clairement, c'est pas du tout une vision de gauche sur les retraites. Ou quand vous écoutez d'ailleurs les syndicats, ils vous expliquent qu'il faut ponctionner les dividendes des milliardaires. Ils vous expliquent que le problème, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires et le fait qu'on a allégé la fiscalité des entreprises. Donc clairement, il y a une vision politique là-dedans. Et donc ce n'est pas clair. Ensuite. Le problème du gouvernement.
Mangez pas trop parce que c'était l'entrée, il y a le plat principal.
Mais le problème de fond, en fait, c'est que le gouvernement explique qu'il faut faire de la pédagogie parce qu'en fait, les Français n'ont pas compris la réforme. Moi, je crois exactement le contraire. Les Français ont très bien compris la réforme et en fait, clairement, ils sont plutôt opposés, mais comme ils ont été opposés à toutes les réformes des retraites qu'on a connues depuis que François Mitterrand. La seule qui avait peut-être été soutenue, c'est celle de François Mitterrand, où il avait abaissé. L'âge de départ à la retraite. Et donc, il faut que les choses soient claires. Ce sont des réformes qui sont impopulaires. Ensuite, est-ce que le président a suffisamment de force politique, de poids politique pour la porter ? Ça, on aura la réponse à la fin de la semaine prochaine.
Alors, je le disais, les syndicats sont mobilisés. Je peux vous dire qu'ils font du porte-à-porte avec leur centrale régionale pour mobiliser un maximum de manifestants et de bloqueurs pour cette journée cruciale de mardi prochain, car c'est à la mobilisation, on le sait bien, que tout va se jouer. Philippe Martinez précise d'ailleurs que c'est par la faute du gouvernement qu'il y aura la grève et les blocages.
Plus le gouvernement tardera à retirer son projet, plus il y aura de grèves. Je n'aime pas le mot blocage, ça ne correspond pas à la situation, des grèves. Et quand il y a des grèves, dans les transports, il n'y a pas de transport. Dans les raffineries, il n'y a pas de pétrole. Mais, je ne sais pas, dans d'autres usines, il n'y a pas de production. C'est le gouvernement qui assumera ça, d'accord ? C'est le gouvernement.
Mais hier matin sur Europe 1, Bruno Le Maire lui répond.
Enfin, c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. C'est l'État, c'est l'intérêt général, c'est le peuple français à travers ses représentants. Et ça ne doit pas être autre chose.
La CGT reconnaît que c'est illégal, mais affirme que c'est moral. Quand on a des factures qui sont multipliées par 2, 3, 4, qu'il faut aider tout de suite les
boulangers. Non mais en quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne? En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation? En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas? Puis après, ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France.
Le Mick Guillot pour le JDD. Réaction.
C'est vrai que c'est facile de taper sur la CGT pour le gouvernement. C'est une façon aussi de faire oublier peut-être qu'il a perdu un allié potentiel qui aurait pu avoir du poids dans cette réforme qui est la CFDT. Il s'est quand même mis à dos un syndicat qui aurait pu...
Il y avait une question d'âge de départ sur lequel, de toute façon, Laurent Berger ne voulait pas négocier. Donc dès lors qu'on a dit 64 ans et que Laurent Berger a dit que ça ne sera pas possible, il n'y avait plus de...
C'est vrai, mais c'est
fait. Il n'y avait plus la possibilité, comme il y avait à l'époque avec François Chérec qui était d'accord avec le gouvernement. C'était une autre histoire, c'est notre époque.
Évidemment, mais le fait est que voilà, c'est plus facile d'orienter les regards vers la CGT. Après, la réalité aussi, c'est que les syndicats... C'est plus facile d'orienter les regards vers la CGT pour faire oublier qu'on a perdu un éventuel allié. Et par ailleurs, c'est vrai que de toute façon, la bataille autour de cette réforme va se jouer dans la rue, puisque au Parlement, c'est quasi plié. Les temps de débat vont être très courts, 20 jours seulement, avec a priori pas de possibilité de contrer le gouvernement. Donc oui, la pression est forte côté rue.
Quelque chose à rajouter, messieurs, François de la Barre, sur les retraites.
Non, sur les grèves, je peux vous raconter une petite anecdote. Parce qu'on était dans notre case en Centrafrique et on attendait de sortir et puis ils ne voulaient pas nous laisser sortir. Et on a réussi quand même à négocier moyennant une petite rallonge du budget sécurité qu'on a dû envoyer par Western Union qui nous laisse et en fait au moment de faire ce virement j'ai appelé à Paris et ils m'ont dit ouais mais là c'est les grèves alors on peut pas le faire tout de suite et donc nous on était là on attendait d'être libérés de la milice rebelle en Centrafrique et il fallait attendre les grèves donc ça donne une idée
du décalage. Est-ce que le type que vous avez eu au téléphone a compris ce que vous lui disiez?
Ah oui non mais il savait pas pertinemment, mais, non, mais c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Bon. On est là, la réalité française qui arrive de
qui vous
le village France qui arrive.
C'est fou.
Et donc il y a quand même un décalage énorme. Dès qu'on dépasse les frontières de la France, il y a quand même un décalage assez énorme entre ce qu'on vit nous et ce que vit le reste du monde. Donc, il faut en avoir conscience. La France est un pays qui aime l'immobilisme.
Vous voulez citer la phrase de Sylvain Tesson ?
Non, mais allez-y.
Les Français vivent dans un paradis et ils sont persuadés que c'est un enfer. Ah oui. C'est pas exactement ça, mais on va retrouver l'ordre des mots après une nouvelle page de publicité 18h40 sur Europe 1. Vous êtes dans la semaine politique.